Deutsche Welle Magazine Santé.
Bienvenue à ce rendez-vous consacré à la santé, votre santé. Les vaccins au sommaire de cette édition. Nous vous en parlons régulièrement, mais cette fois-ci, nous aborderons un angle particulier, celui du transport. Comment maintenir la chaîne du froid pour acheminer les vaccins? Une équipe de l'OMS prône une nouvelle approche. Nous en parlerons avec le responsable de cette équipe. Et puis la dialyse au secours des malades victimes d'une insuffisance rénale, ces affections se multiplient. À Maurice, l'État offre ce traitement gratuitement à tous les patients, comme nous le verrons dans notre reportage. Et au micro pour vous servir, Elisabeth Cadeau. L'insuffisance rénale gagne du terrain dans le monde, en cause la progression du diabète et de l'hypertension parmi les populations. Face aux difficultés à obtenir une greffe de rein, le seul moyen de traiter cette maladie est la dialyse. Une technique qui consiste à nettoyer le sang des patients de ses impuretés grâce à un appareil, une sorte de rein artificiel. Sans ce traitement, les patients meurent très vite de cette maladie qui affecte non seulement les personnes âgées, mais aussi de très nombreux jeunes. Le reportage à ce sujet de notre correspondant Nassim Akbarali à l'île Maurice, où plus de 10 000 Mauriciens souffrent de cette maladie et un millier est en dialyse.
Hôpital Apollo Bramwell à Moka dans le centre de l'île Maurice. Nitty Doman, 47 ans, dont les deux reins ne fonctionnent plus, est en traitement de dialyse depuis 2 ans. Il reste attaché à une machine pendant 4 heures, 3 fois par semaine. Un exercice très pénible et inconfortable pour lui. Nitty Doman, qui a dû réduire considérablement ses activités professionnelles, est accablé.
Au moment que vous apprenez ça,
j'ai eu le choc de ma vie en apprenant que mes reins étaient malades. Je n'avais jamais entendu parler d'une telle maladie. Cela m'est arrivé à cause de l'hypertension. Ça a bouleversé énormément ma famille. Ma vie a changé, elle a pris une autre tournure. Je ne peux plus continuer ainsi. Je vis comme un martyr et je ne souhaite ce malheur à personne.
En dialyse depuis 4 ans, Marianne Salès, par contre, prend sa maladie de manière positive.
Il y a des choses qui arrivent comme ça et que vous pouvez empêcher. Mais ça arrive, les gens tombent malades et ben non. J'ai vu des gens mourir en dialyse devant moi. Je m'estime heureuse d'avoir vécu quand même jusque... Ça fait moins 4 ans bientôt, hein. Il y a des gens qui sont partis avant, il y a des gens qui font plus longtemps, mais qui sont plus malades. Moi, je vais travailler, je prends mon auto, je viens faire ma dialyse, je prends mon auto, je rentre chez moi. Je sais que les gens me disent, je vois que tu es très courageuse, peut-être pas donner à tout le monde, mais ça peut-être, ça dépend aussi comment vous êtes entouré.
À Maurice, le diabète reste la première cause de l'insuffisance rénale. Selon les médecins, plus de 40% des diabétiques, dont le nombre augmente de jour en jour, souffrent de cette maladie. La dialyse constitue la première ligne de traitement pour ces patients. Malheureusement, c'est le seul traitement qui existe au monde, mis à part la transplantation rénale. Celle-ci est une possibilité qui permet aux patients de vivre normalement pendant de nombreuses années, à condition qu'ils trouvent un donneur, ce qui n'est pas évident. Dr Mohamed Zahir Gendou, néphrologue.
Il est établi que la transplantation rénale est plus efficace que la dialyse, même si celle-ci peut durer très longtemps. Il faut sensibiliser les gens au don de rein et surtout faire un bilan santé régulier dès son jeune âge. Autrefois, on commençait à le faire à 40-50 ans. Aujourd'hui, il faut le commencer dès 20-30 ans. Car même si le diabète est difficile à traiter, un bon contrôle réduit les risques de se retrouver un jour en dialyse.
C'est la seule façon pour garder en bonne santé, en vie, c'est la dialyse.
Effectivement, trouver un rein pour en finir avec la dialyse n'est pas chose facile. L'épouse de Nitty Doman lui a fait don d'un de ses reins, il y a 2 ans. Mais l'opération a été un échec. Ce qui fait que Nitty Doman vit toujours grâce à la dialyse et son épouse ne possède maintenant qu'un seul rein. Marianne Salès est sceptique quant à une transplantation de rein.
Oui, mon mari a voulu me faire un don. Ouais. Malheureusement, nous ne sommes pas compatibles. Et je n'ai qu'une fille et je n'ai pas trop de parents. Ouais. Comme il n'y a pas de banque d'organes sur le pays, donc je reste comme ça. Pour aller demander aux gens, vous êtes d'accord pour venir? Non, je ne cherche pas, enfin, je prends des renseignements, mais ce n'est pas évident.
Avant d'en arriver à ce stade difficile, il vaut mieux prévenir. Respecter les règles d'hygiène de vie Éviter de consommer du sucre, par exemple, consulter assez tôt, sont de bons moyens de se protéger contre l'insuffisance rénale et d'éviter la dialyse. Pour cela, l'éducation et la sensibilisation sont indispensables. Et sur ce point, il y a, semble-t-il, des progrès à faire. Dave Pamanan, responsable de l'unité de dialyse à l'hôpital Apollo Bramwell, voit de plus en plus de patients de dialyse. Il est inquiet.
Il n'y a aucune éducation au sujet de la dialyse à Maurice. Les patients viennent vers nous à la dernière minute. Pour moi, le plus important en matière de santé est l'éducation. Une alimentation saine, des exercices physiques réguliers, des médicaments et un suivi médical régulier. On peut ainsi gagner entre 10 et 15 ans de vie avant que les reins ne tombent malades.
10-15 years. Heureusement pour les Mauriciens, le coût des traitements en dialyse est offert gratuitement par l'État à tous les patients, tant dans les hôpitaux publics que privés. Sans cela, on ne sait combien de patients seraient déjà décédés. Nassim Akbarali a pour lui pour la Deutsche Welle.
La polio, la méningite, le rotavirus à l'origine des diarrhées du nourrisson, autant de maladies redoutables. Depuis quelques années, elles sont combattues efficacement par de vastes campagnes de vaccination. Mais leur réussite, notamment en Afrique subsaharienne, se heurte à un problème, celui du transport du vaccin. Comment en faire bénéficier des populations vivant dans des régions éloignées, sans électricité et donc sans possibilité de réfrigération, sachant que la chaîne du froid ne doit pas être interrompue. À l'occasion de la distribution du vaccin Menafrivac contre la méningite A, l'équipe du programme de vaccination à l'OMS a découvert une nouvelle approche. Son coordinateur, Michel Zafran, joint en Suisse, explique.
Le Menafrivac est un vaccin très stable, qui a des caractéristiques de résistance à la chaleur qui sont très très bonnes. Mais ce qui est intéressant surtout, c'est que même si tous les vaccins ne sont pas nés égaux, si vous voulez, en termes de résistance à la chaleur ou même de résistance à la congélation, tous les vaccins sont mis sur le marché avec une recommandation d'être conservés entre 2 et 8 degrés. Par défaut, c'est ce que l'industrie pharmaceutique et les autorités nationales de réglementation ont mis en place pour les produits biologiques tels que les vaccins. Ils doivent être conservés entre 2 et 8 degrés. Alors que, effectivement, certains sont beaucoup plus stables et pourraient être conservés à des températures plus élevées. Mais pour des raisons de simplicité, c'est beaucoup plus simple de dire tous les vaccins sont traités de la même manière que de dire celui-ci on le traite comme ça, celui-ci on le traite comme ça. Mais dès qu'on se trouve dans les pays en développement, on se rend compte qu'en fait, conserver entre 2 et 8 degrés des vaccins, c'est souvent très difficile, en particulier quand on mène des campagnes de masse de vaccination.
Alors, comment avez-vous procédé pour la distribution du vaccin Menafrivac et quelles conséquences en avez-vous tiré justement ?
On a travaillé d'abord avec le fabricant du vaccin qui s'appelle Serum Institute of India, qui est un fabricant qui est basé en Inde, à Mumbai. Et on a demandé à ce fabricant de produire des données de stabilité supplémentaires à ce qu'il avait produit jusqu'à présent sur son vaccin. On s'est rendu compte, à la vue de ces données de stabilité, que le vaccin était effectivement très stable. Et ces données ont été partagées à l'autorité de contrôle qui autorise la mise sur le marché de ce vaccin et ensuite à l'OMS pour autoriser que ce vaccin il soit normalement conservé entre 2 et 8 degrés pendant toute sa vie, mais qu'il puisse bénéficier d'une possibilité d'être utilisé en dehors de la chaîne du froid, à des températures allant jusqu'à 40 degrés, jusqu'à 4 jours. Donc, à la fin de sa vie ou juste avant son administration aux personnes cibles, on peut sortir le vaccin de la chaîne du froid et le transporter sans avoir à produire des briquettes congelées, avoir des boîtes isothermes, etc., qui est un fardeau assez important lors des campagnes. Donc, c'est ce qui s'est passé dans le nord du Bénin, où nous avons, une fois obtenu l'accord de changement, de variation de l'autorisation de mise sur le marché, on a collaboré avec le ministère de la Santé pour conduire dans un des districts au nord du Bénin une campagne où en fait on s'est affranchi dans les derniers kilomètres, dans les derniers jours de la campagne de vaccination, on s'est affranchi de la chaîne du froid. Le personnel de santé n'avait pas à retourner régulièrement au dépôt pour réalimenter de la glace pour continuer à vacciner.
C'est donc une avancée, on peut dire, une autre approche. Il n'empêche que certains vaccins supportent des températures de plus de 37 degrés pendant plus de 4 semaines, comme le vaccin anti-hépatite B, d'autres pendant 1 à 2 semaines, comme la fièvre jaune. Donc ce sont quand même des durées assez longues. Alors, quel serait le type de vaccin qui pourrait être concerné, en dehors du vaccin anti-méningite, par cette nouvelle approche ?
Alors, vous avez cité deux vaccins. Effectivement, l'hépatite B est un vaccin très, très stable. Le problème de l'hépatite B, c'est que, contrairement au vaccin contre la méningite, il est beaucoup plus difficile à caractériser en termes d'efficacité sans faire des essais sur les humains. Donc, on sait qu'il est stable, on sait qu'il n'est pas affecté par l'exposition à la chaleur, mais en fait, pour avoir une autorisation mise sur le marché qui autorise de le sortir de la chaîne du froid, il faudrait que les fabricants acceptent de conduire des essais cliniques complémentaires, et ça a un coût extrêmement élevé. Donc, on n'a jamais réussi à franchir le pas avec le vaccin contre l'hépatite B, bien qu'on sache que c'est un vaccin très stable. Le vaccin contre la fièvre jaune, deux fabricants majeurs sont en train de tester le vaccin et sont en train de produire les données de stabilité. On espère que d'ici quelques mois, ils pourront soumettre à leur autorité nationale de réglementation des demandes de variation. L'autre vaccin qui va sans doute arriver beaucoup plus rapidement avec une variation, c'est le vaccin contre le choléra. Et ce vaccin va sans doute avoir une autorisation de mise sur le marché qui l'autorisera à être conservé jusqu'à 40 degrés pendant une vingtaine de jours. Donc ce sera effectivement, dans le cadre des campagnes contre le choléra, un avantage extrêmement important.
Michel Zaffran, le coordinateur de l'équipe du programme de vaccination à l'OMS. Les coûts d'administration du vaccin Menafrivac pourraient être réduits de moitié grâce à cette approche, d'après une analyse économique de l'Organisation mondiale de la santé. Voilà, c'est déjà la fin. Merci à Raphaël du Congo. Il s'intéresse aux difficultés à mettre au point un vaccin sur le paludisme. Nous avons déjà évoqué ce thème, mais nous y reviendrons bien sûr. Si vous aussi vous avez envie de réagir, n'hésitez pas à nous envoyer un courriel à français@dw.de. Et en attendant de vous lire, restez-nous fidèles sur les ondes de la Deutsche Welle.